Alors oui, ce matin, nous continuons notre série sur l'Église et sur sa mission. Et la dernière fois, nous avions vu que la première responsabilité et mission de l'Église, et cela va de soi pour le chrétien également, c'est de glorifier Dieu en toutes choses. C'est son adoration. Et donc, on avait vu plusieurs choses par rapport à cela, et je ne vais pas les répéter, mais ce qui va suivre, le deuxième point, si vous voulez, de cette prédication sur les responsabilités de l'Église, c'est lié à cette recherche de glorifier Dieu. C'est l'écrivain Oscar Wilde qui avait dit que l'imitation est la plus sincère des flatteries. Et j'aimerais reprendre un peu la même idée par rapport à cela, c'est que nous-mêmes, en tant que chrétiens, eh bien, d'imiter Christ, d'imiter notre Seigneur, d'imiter Dieu, c'est aussi un moyen de glorifier Dieu, de lui rendre gloire et de l'adorer. On avait vu dans Éphésiens chapitre 4, hein, qui a servi de base à cette série de messages sur l'Église, et que voilà, l'objectif un peu de l'Église ici, hein, c'était que pour les chrétiens puissent grandir, être consolidés dans leur foi, etc., et que le Seigneur avait donné à l'Église, eh bien, plusieurs serviteurs pour aider dans ce sens-là. Mais dans le chapitre 5, hein, après que Paul ait donné plusieurs instructions aussi sur les choses que nous ne devons pas faire et faire. Eh bien, au chapitre 5, verset 1er, c'est lié avec ce qu'il vient de dire. Il dit « Devenez donc », c'est lié avec les versets précédents, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et voilà bien, je dirais, le deuxième objectif pour l'Église et pour les croyants, c'est d'être un reflet de Dieu, d'être les imitateurs de Dieu. Le mot grec ici, c'est le même mot que l'on utilise en français pour mimer, c'est-à-dire faire la même chose, hein, c'est reproduire. Comme des enfants bien-aimés, de reproduire, eh bien, Dieu dans nos vies. Et donc oui, la plus grande forme d'adoration qui soit, c'est lorsque le chrétien, eh bien, obéit à la volonté de Dieu et s'efforce et se donne tous les moyens dans sa vie pour, eh bien, ressembler à Dieu. Parfois même quitte à prendre des décisions qui peuvent être radicales aux yeux de notre entourage, mais ce désir de vouloir ressembler toujours plus à Dieu. On a vu à travers ce passage d'Éphésiens 4 que Dieu avait donné à l'Église toutes ces choses pour le perfectionnement des saints, qu'il nous a appelés également à nous dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme nouveau. Et maintenant, il nous dit donc, imitez Dieu, soyez comme lui, comme des enfants bien-aimés. Alors c'est vrai qu'il y a quelque temps de cela, j'avais fait aussi toute une série de messages sur être comme Christ. Et nous avions vu plusieurs des caractéristiques du Seigneur Jésus. Mais ce matin, on va regarder à la nature de Dieu même, à son essence. Et pour cela, bien sûr, on va regarder à beaucoup de choses, beaucoup de passages. Mais c'est certain que, logiquement, pour pouvoir imiter quelqu'un, il faut pouvoir connaître cette personne. On ne peut pas imiter ce que l'on ne connaît pas. Là, Paul, il dit comme des enfants bien-aimés, hein, nous devons imiter Dieu. Et que, bien sûr, pour pouvoir imiter Dieu, la première des choses, c'est que eh bien, nous soyons ben, des enfants. On ne peut pas imiter Dieu, on ne peut pas être comme lui sans être ses enfants. Alors vous, hein, qui êtes présents, vous le savez, hein, que nous sommes, eh bien, en Christ et par Christ devenus des enfants d'adoption, hein, pour le but de célébrer la gloire de Christ, justement dans Éphésiens chapitre 1er, Hein, les versets 3 à 6, c'est exactement cela que Paul mentionne lorsqu'il dit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors, il y a une des choses que on peut constater aisément, facilement, avec les enfants, c'est que les enfants naissent imitateurs, n'est-ce pas? Parce que les enfants vont grandir dans un contexte familial avec un papa, avec une maman, et ça va être leur premier contact social dans la vie, c'est papa et maman. Et ça va être leur premier exemple dans leur vie, papa et maman. Et lorsqu'ils sont bébés, donc ils vont observer plein de choses. Ils vont observer les mouvements de la bouche des gens et au fil des mois, ils apprennent à imiter ces choses. Ils apprennent à parler, à s'exprimer. Hein, les petites filles vont regarder à maman et prendre comme modèle et essayer de faire comme elle. Hein, on a tous vu ça, ceux qui ont une sœur, hein, ou bien même dans les films, on voit ça, les petites filles qui attrapent le maquillage de maman et qui essaient de faire comme maman ou de mettre les chaussures de maman, etc. Et les garçons, hein, faire pareil en attrapant un des outils de papa et en voulant faire les mêmes choses que papa. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quelque part inné dans l'être humain, c'est de vouloir imiter parce qu'ainsi il apprend. La connaissance nécessaire pour pouvoir imiter Dieu, eh bien, provient tout d'abord de sa parole. Et nous avons dans la Bible tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu, pour pouvoir nous approcher de lui en tant qu'enfant. Alors, je l'ai déjà répété plusieurs fois à l'occasion de prédications ici à l'église, que lorsqu'on regarde dans les Écritures, on voit Dieu qui nous est dévoilé et nous est présenté comme étant, eh bien, le Dieu créateur hein, de toutes choses. On apprend à connaître qui il est dans sa personne, dans son nature, dans son essence. Et si on devait quelque part résumer, c'est une phrase que l'on entend souvent hein, en théologie pour résumer qui est Dieu, même si ça fait pas vraiment honneur à qui il est, n'est-ce pas? Mais on dit ceci, que Dieu est l'Esprit infini et parfait, l'origine, le soutien et la fin de tout, hein, la fin dans l'idée aussi de finalité. Hein, voilà qui est Dieu. Et en théologie, lorsqu'on étudie hein, la personne de Dieu, on voit qu'il a certains attributs hein, qui sont uniques à lui. Ça lui appartient. Et d'autres attributs qui sont en relation avec ses créatures, avec les êtres humains. Ainsi, on sait que ben, Dieu, il est la vie. Et c'est par lui que nous avons la vie. Que lorsque Dieu il a créé l'être humain, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? Si Dieu est esprit, comment est-ce que le corps représente Dieu? Non. Mais il a créé l'être humain avec une personnalité, avec une intelligence, un esprit, avec des émotions, une âme. Et dans sa relation avec l'être humain, c'est ce qu'il veut faire en nous, c'est reproduire ce qui existe en lui, ce qui est dans sa sainte nature. On sait que, en lisant ce livre de la Genèse, on sait que le péché d'Adam et Ève, eh bien, est venu perturber cette image que Dieu avait créée en l'être humain. Et que dans son plan pour l'humanité, par Jésus-Christ, eh bien, Dieu cherche à rétablir ce qui aurait dû être à l'origine, c'est-à-dire que nous soyons à son image. D'où la raison pour laquelle Paul nous invite, et à plusieurs reprises, à être les imitateurs de Dieu, imitateurs de Christ, parce que c'est ce qu'il avait déjà prévu pour chacun d'entre nous dès le début. Mais le péché a corrompu toutes ces choses-là. Et donc, pour connaître Dieu, bien oui, voilà, nous avons sa parole. Mais ça, c'est une connaissance qui va être quelque part d'abord intellectuelle. Elle nous présente qui est Dieu. On peut très bien étudier la théologie de manière intellectuelle sans pour autant vraiment connaître Dieu comme son Père. Et c'est là que lorsque l'on comprend le message de la Bible, lorsqu'on comprend le message de l'Évangile, que par la grâce de Christ, par son sacrifice sur la croix, eh bien, Dieu a fourni le moyen à l'être humain d'être réconcilié avec Dieu, de devenir ses enfants par adoption, d'avoir Dieu pour Père, eh bien là, nous connaissons Dieu d'une autre manière. Nous le connaissons de manière plus intime. Donc oui, il y a ces deux manières de connaître Dieu, tout d'abord par la révélation de sa parole et en la mettant en pratique. Hein, lorsque Dieu il a dit « Repentez-vous », convertissez-vous. Voilà, on met en pratique cela et à partir de ce moment-là, en Christ, nous devenons les enfants par adoption de Dieu. Et là, s'ouvre une nouvelle vie, n'est-ce pas? Toutes choses sont devenues nouvelles. Et puisque c'est une nouvelle vie, voilà. Maintenant, Dieu, il attend que nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous prenions cette nouvelle vie pour la construire et la bâtir avec lui à sa ressemblance. Alors bien sûr, comme j'ai déjà dit, ce résumé ne fait pas justice au Dieu éternel. Hein, comme Jean il a dit au sujet du Seigneur Jésus, hein, que le Seigneur avait fait encore beaucoup d'autres choses et que si on les écrivait en détail, il n'y aurait pas assez de place dans le monde entier pour contenir tous les livres à son sujet. N'est-ce pas? Alors oui, nous avons une connaissance qui est limitée, peut-être même une connaissance élémentaire de qui est Dieu, mais elle est suffisante pour bâtir notre foi et savoir, eh bien, ce que Dieu attend de nous par rapport à qui il est. Alors oui, Paul il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Pour cela, il faut le connaître. Et comme j'ai dit, lorsqu'on regarde aux Écritures et on étudie la théologie, il y a, on va dire, trois attributs hein, qui sont spécifiques à Dieu et à Dieu lui seul. C'est que, bon, on a déjà mentionné qu'il est la vie, bon, la personnalité, ces choses-là, mais dans sa perfection, on va retrouver la vérité, on va retrouver l'amour, on va retrouver la sainteté. N'est-ce pas? Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean nous rappelle que Dieu est amour. Et puis la sainteté de Dieu est quelque chose, quelque part, à part. Même si c'est lié, on ne peut pas ôter l'un de ces attributs de Dieu, on ne peut pas diminuer l'un des attributs de Dieu. Cependant, lorsqu'on regarde à la sainteté de Dieu, il y a comme une sorte de prééminence de la sainteté. N'est-ce pas? Même si on prenait le temps de regarder combien de fois dans les Écritures il est question d'amour ou il est question de vérité, et de comparer ça par rapport à toutes les mentions de la sainteté de Dieu, de l'appel à la sanctification, du fait que nous devons être saints. Si on pose la question aux gens, qui est Dieu pour vous, ou quel aspect de Dieu vous interpelle, on va immanquablement, et même dans nos églises, oh l'amour de Dieu, n'est-ce pas? L'amour de Dieu. Et je ne cherche pas à diminuer l'amour de Dieu. Mais pensez à ceci. Si Dieu n'est pas saint, comment est-ce que son amour pourrait être même parfait? La sainteté de Dieu. Dès l'Ancien Testament, on comprend que Dieu est saint. D'ailleurs, c'est ce qu'il appelait hein, le peuple d'Israël à être, c'est soyez saints, car je suis saint. Bizarrement, on n'a pas de verset qui dit soyez amour, parce que je suis amour. Il n'y a pas de verset qui nous dit soyez la vérité, parce que je suis la vérité. Non. Soyez saints parce que je suis saint. Et donc, oui, de tous les attributs de Dieu, la sainteté ressort de manière exceptionnelle des Écritures. Soyez saints. Ça va être le premier objectif d'imitation de Dieu, c'est la sainteté dans notre vie. Alors qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est la perfection absolue. La sainteté, c'est la pureté, c'est l'absence de péché. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui nous interpelle le plus au sujet de Dieu? Qu'est-ce qui nous attire le plus à son sujet? Et si ce n'est pas la sainteté, ça montre à quel point, eh bien, on doit quelque part réorienter notre vie spirituelle. Dieu est saint. Soyez saints, car je suis saint. Charles Ryrie, qui est un théologien, il dit, en ce qui concerne Dieu, la sainteté signifie non seulement qu'il est séparé de tout ce qui est impur et mauvais, mais aussi qu'il est positivement pur et donc distinct de tous les autres. Il est unique. Il n'y a que Dieu qui soit saint, comme il est saint. Donc c'est cette pureté qui émane de Dieu. Cette pureté qui fait aussi que, voilà, le péché, il ne peut pas le tolérer. Que même d'être dans sa présence, ça requiert que nous soyons même sanctifiés. On se rappelle de Moïse quand il s'approche du buisson ardent et Dieu qui lui dit quoi? Ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. C'est pas le lieu lui-même qui avait quelque chose de spécial, c'était la présence de Dieu qui était spéciale. Lorsque Ésaïe, chapitre 6, il a cette vision hein, de Dieu dans le temple, qu'est-ce qu'il entend? Être chanté et proclamé. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Encore une fois, c'est pas amour, amour. C'est pas vérité, vérité, vérité. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et la réaction d'Ésaïe, il voit ça, il voit Dieu dans sa gloire. Malheur à moi! Malheur à moi! Pourquoi? Parce que je suis impur, je viens d'un peuple impur, mes lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et là, Dieu a dû intervenir, l'un des séraphins qui vole vers lui, qui lui tend une pierre ardente et il lui dit: En touchant sa bouche, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Voilà ce qu'il faut pour être dans la présence de la sainteté de Dieu. Il ne peut pas y avoir de péché. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit d'impur. On retrouve cette même ambiance majestueuse dans le livre de l'Apocalypse, hein, au chapitre 4, verset 8, hein, avec ces quatre êtres vivants qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. La sainteté. Et donc, en recherchant dans notre vie cette sainteté, nous allons de la même manière glorifier Dieu. Dans les psaumes, dans le psaume 99, deux versets, le verset 5, il dit: Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Pourquoi? Il est saint. Quelques versets plus loin, verset 9: Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Dieu est intrinsèquement saint, ça vient de sa propre nature. Il ne peut pas être autre chose que saint, que pur. Et donc oui, pour le peuple d'Israël, il y avait cette tâche, cette responsabilité d'observer les lois et les commandements de Dieu. Mais voilà, lorsque Dieu s'adresse à eux dans le Lévitique chapitre 20, les versets 7 à 8, il dit: Vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, comme pour Ésaïe, et là comme, eh bien, pour le peuple d'Israël, et comme pour nous aujourd'hui, Il y a cette nécessité de sanctification tout d'abord, que Dieu va faire dans notre vie, accomplir dans notre vie, pour que nous puissions être à son image. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 1er, versets 14 et 16, réitère ces mêmes principes. Et même, il réitère cette même idée de la raison pour laquelle nous devrions le faire, tout comme Paul a dit, comme des enfants bien-aimés, Pierre, il dit, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et donc il nous faut bien comprendre que la sainteté de Dieu n'est pas seulement la norme de conduite pour le peuple d'Israël, mais elle est également la norme de vie pour nous chrétiens aujourd'hui. C'est un principe qui est intemporel parce que Dieu est saint. Puisque Dieu est saint, nous qui sommes des enfants bien-aimés, des enfants obéissants, eh bien nous devons refléter dans notre vie cette même caractéristique et la laisser définir l'ensemble de notre vie, toute votre conduite. Alors comment pouvons-nous être saints? Nous comprenons que la sanctification consiste à retirer tout péché qui est en nous. Parce que le péché, c'est ce qui nous empêche de ressembler à Dieu. En théologie, encore une fois, quand on parle de sanctification, on va retrouver deux aspects de la sanctification, ou plutôt peut-être même, on va dire, deux processus de la sanctification. Il va y avoir ce qu'on appelle la sanctification de position, mais aussi la sanctification personnelle. De quoi parle-t-on? La sanctification de position, eh bien, c'est ce qui se produit, eh bien, lorsque le croyant repentant place sa foi en Jésus-Christ, et que par l'œuvre de Christ sur la croix et l'œuvre de régénération de l'Esprit-Saint, eh bien, le croyant repentant est renouvelé. Il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu le déclare saint sur la base du sacrifice expiatoire de Christ. Non pas sur nos mérites, non pas sur nos œuvres, mais sur celles de Christ. Et comme Paul le rappelle dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déclaré saints. Dans la première épître de Jean, chapitre 5 et verset 13, l'apôtre nous rappelle qu'il a écrit ces choses pour que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Pas parce que vous aurez la vie éternelle, mais parce que vous avez. C'est quelque chose que le chrétien, le croyant, né de nouveau, possède grâce à Christ. C'est la vie éternelle. Et l'éternité, c'est une autre des aspects, hein, de Dieu. Mais voilà, à partir de ce moment-là, nous sommes déclarés saints. Cette sainteté, encore une fois, elle est nécessaire pour être de manière permanente dans la présence de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous dit « Recherchez la paix avec tous, mais également la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, il y a besoin de cette sanctification qu'on appelle de position, c'est-à-dire la nouvelle naissance, lorsque Dieu nous déclare juste et nous déclare saint. Et nous ne sommes plus coupables devant Dieu. Cette sainteté, elle ne dépend pas de nos œuvres, elle dépend de celle de Christ sur la croix. Un exemple pour comprendre bien ce principe-là, parce que c'est vrai que, bon, avec l'Église catholique, hein, il faut être presque une personne complètement parfaite et avoir accompli un miracle pour être reconnu comme un saint, canonisé comme un saint. Mais voilà, l'Écriture nous parle autrement de ceux qui sont saints. L'Écriture nous montre que ceux qui sont saints, c'est tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Dans sa première épître aux Corinthiens, il écrit à cette église de Corinthe, il dit « à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, donc appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, et continue ainsi son introduction. Mais quand on regarde à cette église de Corinthe, est-ce que leurs œuvres les qualifient de saints? Non, c'était une église avec de graves péchés, de graves problèmes que Paul a dû intervenir pour régler cette situation-là à cause du grave péché qu'il y avait dans cette église. Et pourtant, encore une fois, Paul s'adresse à eux comme saints, non pas par rapport à ce qu'ils accomplissent, ce qu'ils font, mais saints parce que celui qui les a sanctifiés, c'est Christ. Pierre nous le rappelle dans sa première épître au chapitre 2, hein, verset 9, que ceux qui sont en Jésus-Christ, voilà, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte. Donc il y a cette sanctification de position que, eh bien, nous avons reçue par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, hein, qui nous a sanctifiés par son œuvre rédemptrice sur la croix et par l'Esprit Saint qui nous a régénérés. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle cette sanctification personnelle. Maintenant que nous avons été déclarés saints, eh bien, il faut le montrer. C'est un peu ce même principe hein, que Jacques évoque hein, par rapport à notre foi. La foi sans les œuvres, est-ce qu'on peut vraiment qualifier cela de foi? Parce que la foi, immanquablement, elle nous appelle à œuvrer pour le Seigneur et à faire les choses, les œuvres qui sont spirituelles. Nous sommes déclarés saints, mais maintenant notre vie doit, eh bien, exemplifier cela, magnifier cela. Et donc ce désir de sainteté dans notre vie, elle devrait déjà émaner du fait que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu et nous voulions lui rendre cela, nous voulions lui rendre quelque chose pour ce qu'il a accompli dans notre vie. Elle émane du fait que si nous avons accepté sa grâce, nous devrions aimer Dieu de manière naturelle, n'est-ce pas? Et donc cet amour nous pousse à l'obéissance de sa volonté et donc à nous séparer de tout péché dans notre vie, pour que voilà, notre vie manifeste cette sainteté de position par cette sainteté personnelle dans notre vie. C'est pour ça que Pierre dit, soyez saints dans toute votre conduite. C'est ma conduite. J'en suis responsable. C'est à moi de faire les bons choix dans mes actions, dans mes œuvres, dans mes conduites qui vont honorer la sainteté de Dieu en l'exemplifiant dans ma vie. Et donc, comprenons bien que cette sainteté, c'est notre objectif en tant que chrétien et donc en tant qu'Église. Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3, il dit clairement, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Plus loin, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et donc, il y a cette distinction qu'il est nécessaire pour nous de faire dans notre vie, c'est que, voilà, on ne peut pas être sanctifié si on laisse le péché dans notre vie. Donc la sanctification, ça va être un processus d'un choix volontaire de ma part, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui sanctifie, mais c'est à nous de prendre cette décision et de faire les premiers pas pour que, eh bien, nous soyons sanctifiés ainsi. Mais voilà, il nous faut rejeter le péché, la débauche, l'impureté. Hein, c'est ce qu'on va appeler souvent hein, comme étant la séparation personnelle, c'est-à-dire le rejet du péché. Et donc la sanctification, voilà, c'est ce principe où parce que je veux m'attacher à Dieu, eh bien je vais devoir me détacher du péché et des convoitises. Cette sanctification, elle va se faire de plusieurs manières. Tout d'abord, on comprend que ça va être par la parole. Parce que la parole de Dieu est l'un des instruments qu'il emploie pour permettre aux chrétiens, eh bien, de vivre dans la sainteté. Rappelez-vous des paroles du Seigneur, dans Jean chapitre 17, verset 17, 19, etc. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La sanctification, elle va venir d'abord de la parole de Dieu. On ne va pas pouvoir nous-mêmes rechercher et poursuivre la sanctification si on ignore la parole de Dieu, si on la délaisse, si on ne la prend pas au sérieux. Même un peu plus tôt, dans Jean chapitre 15 et verset 3, hein, il nous est dit que voilà, les croyants sont purifiés par la parole de Dieu. Pourquoi est-ce si important de laisser la parole agir dans notre vie? L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, nous le rappelle. La parole de Dieu, elle est quoi? Elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole va nous montrer précisément ce qui ne va pas dans notre vie. Est-ce que nous devons abandonner? Et là va venir le deuxième moyen que Dieu va employer pour notre sanctification, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est bien plus que le Consolateur. L'Esprit de Dieu qui est aussi celui qui nous enseigne, qui nous aide à nous rappeler les Écritures. Mais l'Esprit de Dieu, il est appelé comment? Comment est-il qualifié? Qu'est-ce qui fait partie de son nom? Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que son œuvre dans notre vie, ça va être celui de cette sanctification. Et à travers cette sanctification, nous aider à ressembler toujours plus à Christ. Et donc le Saint-Esprit, oui, est directement lié à l'imitation, hein, par le croyant de la sainteté de Dieu, à la séparation du péché, des pratiques qui déshonorent la sainteté de Dieu. Mais voilà. Quand on regarde à ces passages d'Éphésiens 4 et versets, et même chapitre 5, on voit toute une longue liste, hein, de ce qu'il nous faut abandonner. Mais il y a une chose que Paul il dit vers la fin du chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il invite, même dans le chapitre suivant, hein, verset 18, à être rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, attrister le Saint-Esprit, ben, c'est à chaque fois qu'on va faire tout ce qui est contraire à ce qu'il nous dit de faire. Attrister le Saint-Esprit, c'est quand on va dire, je ne veux plus que tu influences ma vie. Mais au contraire, nous devrions être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque le croyant tolère le péché dans sa vie, eh bien, il attriste le Saint-Esprit. Je vous imaginais encore une fois cette scène d'Ésaïe 6. Lorsqu'il est dans la présence de Dieu, sa réaction, c'est malheur à moi, parce que je suis impur. Maintenant, reprenons cela avec la vérité que nous donnent les Écritures selon le fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oula. Et maintenant, repensons à toutes les choses mauvaises que nous avons faites. Vous voyez le contraste immense qui est en train de se faire là entre l'attitude d'Ésaïe et l'attitude de beaucoup d'entre nous par rapport à ce que nous faisons avec notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et nous venons là avec nos péchés et nous laissons le péché trop souvent dominer notre vie, nous envelopper si facilement et nous attristons le Saint-Esprit. Mais lorsque l'Esprit contrôle notre vie, eh bien, la sanctification va faire son œuvre. Et avec la sanctification, eh bien, nous ressemblerons de plus en plus à Dieu. Et voilà, sans la puissance de l'Esprit Saint, ça ne va pas nous être possible. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas juste les œuvres que nous pratiquons, mais c'est aussi ce qui nous pousse à faire ces œuvres-là. Parce qu'il est facile d'être dans une routine religieuse et d'accomplir toutes sortes d'œuvres qu'on va qualifier de bonnes, mais sans vraiment se séparer du péché. Nous devons donc laisser l'Esprit Saint nous transformer en l'image de la gloire de Dieu, comme Paul l'écrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. La troisième manière par laquelle nous allons pouvoir être sanctifiés, ce n'est pas la plus plaisante, parce qu'il s'agit de la discipline. Parce que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est notre Père. Notre Père, lorsqu'il va voir que nous ne sommes pas obéissants, lorsqu'il va voir que, eh bien, nous lançons hein, à bras ouverts vers le péché, il va discipliner. C'est l'un des moyens que Dieu va employer pour produire la sainteté dans la vie des croyants qui sont récalcitrants à l'œuvre de l'Esprit. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, il illustre cela de manière assez flagrante. Dans Hébreux chapitre 12 et verset 10, il dit: Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie, pourquoi? Pour notre bien. Et notez bien ceci. Afin que nous participions à sa sainteté. Et le verset qui suit déclare que cette correction produit le fruit paisible de la justice dans la vie du croyant discipliné. Donc voilà, cette sanctification, Dieu va employer ces moyens-là pour l'accomplir dans notre vie. Et cette sanctification personnelle, eh bien, encore une fois, consiste à renoncer au péché, renoncer au vieil homme, hein, Éphésiens chapitre 4 et versets 20 à 24, on a tout le descriptif par rapport à cela, mais aussi dans la croissance spirituelle, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, comme Paul le rappelle au chapitre 5 et verset 18, mais également dans nos pensées. Parce que oui, encore une fois, on peut se séparer du péché, on peut faire des actions, on va dire, physiques qui vont nous séparer du péché, mais voilà, il reste encore nos pensées. Et c'est pourquoi Paul, il nous rappelle dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, il faut comprendre que cet objectif de sainteté, c'est au-delà de la pureté du corps, c'est la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit, la pureté de nos pensées. Alors oui, cette sanctification va nous amener, comme Dieu, à avoir une sainte haine du péché. Et va nous amener, nous pousser à poursuivre la vertu, la purification de nos pensées, de nos actes, et ainsi glorifier Dieu. Alors oui, il y a un danger dont il faut effectivement parler, c'est celle de ce que moi j'appelle le pharisaïsme. Je sais que beaucoup de prédicateurs vont plutôt employer le terme légalisme, hein, où lorsque les chrétiens, les églises mettent toute une liste de règles qu'il faut suivre, etc., quant à les vêtements à porter, la longueur des cheveux, barbe ou pas barbe, etc. Et on entend toutes sortes de choses farfelues que des églises, que des pasteurs imposent aux chrétiens. C'est pas ça le légalisme. Le légalisme, en théologie, c'est par rapport au salut. C'est-à-dire que c'est rechercher le salut par l'accomplissement de la loi, poursuivre les lois, les règles, etc. Ça, c'est le légalisme. Moi, je préfère employer le terme pharisaïsme, parce que ça, c'est ce qu'ils faisaient. Ils imposaient des règles de vie au peuple, des règles qui n'étaient pas dans la parole de Dieu, des règles farfelues, qui pesaient tant au peuple que ça les éloignait de Dieu plus qu'autre chose. Et le danger, oui, vient lorsque nous élevons ces principes de vie, des normes de conduite, au rang de loi divine. Vous savez, la sanctification va nous amener à faire des choix personnels. Et ces choix personnels, ils vont être valables pour nous. C'est des choix personnels. Donc, ce que moi, je vais me séparer dans ma vie, c'est les choses qui vont m'affecter, moi, dans ma vie, qui vont me pousser vers le péché. Et ça se peut que ce ne soient pas les mêmes choses pour notre frère, notre sœur. Okay? Il y a certes la liberté en Christ que nous avons, mais notre objectif, c'est d'abord de regarder à ce que la Bible dit, et c'est ce que nous devons poursuivre. Chaque fois que les Écritures interdisent une attitude ou une action, bah nous devons l'abandonner. Et dans ces chapitres 4 et 5 d'Éphésiens, Paul, il en fait une bonne liste. Chaque fois que l'Écriture commande une attitude ou une action, hein, comme aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, etc., hein, édifiez-vous, exhortez-vous, le croyant doit y obéir. Et c'est aussi simple que ça. Et donc ses actions et ses attitudes sont soit contraires à la sainteté de Dieu, soit vont refléter cette sainteté. Alors comment est-ce qu'on va établir dans notre vie, oui, peut-être des normes qui vont nous aider, nous, personnellement, à grandir et à progresser dans cette sainteté. Comme j'ai dit, parfois ce peut être les vêtements. Des vêtements qui peuvent amener de mauvaises pensées à d'autres personnes. Parfois ça peut être la consommation de substances, hein, le tabac ou des drogues ou l'alcool. Parfois ça peut être la musique, hein, le genre de musique que vous écoutez, les paroles qui sortent de ces musiques. Et chacun d'entre nous, nous devons déjà déterminer pour nous-mêmes ce qui va nous aider dans notre vie, et bien nous rapprocher de Dieu. Maintenant, si ces choses-là sont des pierres d'achoppement déjà pour nous-mêmes, nous devrions les abandonner. Mais si on fait cette réflexion que oui, ça peut amener les autres croyants à tomber aussi, donc je vais encore plus les abandonner. Parce que rappelons-nous que c'est pas simplement la sanctification personnelle dont il est question. C'est également la sanctification de l'Église dans son ensemble. La sanctification de l'Église, c'est logiquement l'extension de la sanctification personnelle. Lorsque les chrétiens d'une assemblée recherchent activement la sainteté dans leur vie, ça va amener l'Église à être sanctifiée. Sans cette sanctification, déjà, il nous est personnellement impossible de ressembler à Christ, mais il nous est aussi impossible d'apporter à Dieu un culte d'adoration qui l'honore. Rappelez-vous. N'ai rien à faire de vos sacrifices, de vos offrandes. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait les cœurs. Il connaissait l'attitude, il connaissait les raisons. Sans cette sanctification, nous ne pouvons pas adorer Dieu comme il le faut. Rappelez-vous, c'est ce pourquoi Christ a donné à l'Église ses différents ministères cités en Éphésiens 4, hein, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et notez bien ceci, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Rappelons-nous également, chapitre suivant, chapitre 5, versets 25 à 27, les raisons pour lesquelles Christ s'est livré. On dit bien, on souligne souvent ce verset, hein, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais notez bien, et il s'est livré lui-même pour elle, dans quel objectif? Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de quoi? On revient à la parole, hein, par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais quoi? Sainte et irréprochable. Et donc, pour que l'église soit glorieuse, irréprochable et pure, nous devons déjà individuellement rechercher et poursuivre la sainteté dans notre vie, être sanctifiés, et que ainsi l'église soit sanctifié pour paraître devant Christ. Alors pour conclure, il y a plusieurs questions à laquelle nous devons répondre personnellement. Déjà un, y a-t-il des preuves de sainteté dans ma vie? Y a-t-il des preuves de cela? Suis-je simplement en train de suivre religieusement des principes et des règles de vie? Ou bien est-ce que je désire sincèrement et que je m'efforce, même passionnément, d'atteindre cette sainteté? Est-ce que je reconnais et même déplore le manque de sainteté dans ma vie? Est-ce que je recherche sincèrement même l'aide de Dieu pour être saint? Rappelons-nous, il nous a donné la parole, il nous a donné l'Esprit Saint pour nous aider à accomplir cela dans notre vie. Hein, ce n'est pas ceux qui prétendent connaître Christ, connaître Dieu, qui entreront au ciel. Hein, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il est possible d'avoir, hein, quelque part, la vie qui puisse ressembler à un chrétien. Et même là, d'accomplir des choses spectaculaires, miraculeuses. Mais Dieu, il en revient toujours au cœur. Sans la nouvelle naissance, nous ne sommes pas saints devant Dieu. Et sans la poursuite de cette sainteté, la recherche à accomplir cette sainteté dans notre vie, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos pensées, eh bien, on va être à côté de la plaque si on ne poursuit pas ces choses-là. On peut dire j'ai la foi, mais est-ce que nos œuvres reflètent la sainteté de Dieu? Elle est nécessaire, cette sainteté dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons encore deux autres aspects à voir concernant Dieu pour l'imiter. Et sans cette sainteté, ça va être impossible de croître en amour ou même de défendre la vérité. Parce que tels sont les objectifs aussi de l'Église, que chacun d'entre nous puissions grandir en amour, mais aussi connaître la doctrine, défendre la vérité. Prions. Père, tu connais chacun d'entre nous parfaitement. Tu connais ma vie, rien n'est caché devant toi. Tu connais mes imperfections, tu connais mes péchés, mes manquements. Et Seigneur, je prie pour que dans ma vie et dans la vie de tous mes bien-aimés ici, de cette petite assemblée, eh bien, nous puissions te laisser agir pleinement. Seigneur, que oui, nous recherchions cette sainteté. Non pas pour épater les autres autour de nous, pour paraître comme de bons chrétiens, mais rechercher cette sainteté, parce que c'est toi qui la demandes, et nous voulons t'honorer et te faire plaisir. Seigneur, de rechercher cette sainteté, parce que si nous avons compris que nous avons besoin de ta grâce pour être réconciliés avec toi, parce que notre péché nous empêchait d'entrer dans ta présence, c'est que nous avons compris la gravité du péché. Et même si ça devrait être naturel dans notre vie de vouloir rejeter ce péché, parce que c'est ce qui nous a tués spirituellement et même physiquement, bien Seigneur, je prie pour que tu nous aides à avoir cette même haine que tu as vis-à-vis du péché, à rejeter cela dans notre vie. Seigneur, encore une fois, je prie pour que ton œuvre se fasse dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Et que nous puissions être devant toi, eh bien, ce à quoi tu nous as appelés. D'être à ton image, à celle de ton Fils. D'être cette Église irréprochable et pure devant toi. Gloire à toi pour ce que tu as accompli et que toi seul arrives à accomplir dans notre vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour conclure ce culte ce matin, nous allons chanter un dernier cantique, numéro 299, Adonne à mon âme, numéro 299.